Brume 90.7. Nous défrichons pour vous toute l'année l'actualité culturelle. Depuis quelques semaines, un mouvement unitaire s'est formé en France, défendant les droits de tous les travailleurs précaires, intermittents, chômeurs, intérimaires. Nous leur donnons aujourd'hui la parole sur notre antenne. C'est aussi eux qui sont à la base de la création culturelle et de la défense des droits des travailleurs que nous soutenons.
Alors, il y a plusieurs catégories de travailleurs qui sont touchées. D'une part, le régime général, dont on parle peu. Donc le régime général, ce qui se met en place, c'est le système des droits rechargeables. Je vais vous passer les détails, mais en gros, ça réforme l'accès aux ACEDIC, aux indemnisations. Donc en fait, les travailleurs, après après avoir perçu une première fois des droits, auront droit à des indemnités après 150 heures de travail seulement. Ça veut dire que ça va encourager tout le monde à accepter des missions complètement précaires, des missions courtes, chose qui est déjà bien en route en ce moment et depuis quelques années déjà. Ce qui change pour les intérimaires, c'est leur taux d'indemnisation. Donc c'est une moyenne de 200 euros par mois en moins en termes d'indemnisation par personne intérimaire. Ce qui change aussi, c'est que jusqu'ici, ils pouvaient rentrer dans le cadre de l'intérim sans passer par des agences. Or ça ne sera plus possible avec le nouvel accord, à savoir que maintenant, tous les intérimaires, pour bénéficier de l'annexe 4 correspondant à l'intérim, devront être embauchés uniquement par des agences d'intérim. Donc tous les vacataires de l'enseignement, par exemple de l'événementiel, ne seront plus concernés par cette annexe et basculeront dans le régime général. Sachant que dans le régime général, une journée de travail, c'est 5 heures. Pour les intérimaires, c'est 10 heures. Voilà, donc ça change beaucoup, beaucoup de choses. Pour les intermittents, donc il y a une question de différé d'indemnisation. Et c'est aussi une durcification du système par rapport au régime général. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de techniciens qui travaillent à la fois dans le régime de l'intermittence et à la fois dans le régime général. Ça va changer. C'est-à-dire que Pôle emploi va mettre tout en œuvre pour faire basculer beaucoup d'intermittents dans le régime général avec un calcul automatique d'heures. C'est-à-dire que si on ne fait pas nos 507 heures sur une période de référence de 10 mois et demi, on bascule automatiquement dans le régime général avec les conditions que j'ai citées juste avant. Donc un encouragement à accepter n'importe quel petit boulot précaire. Et donc voilà, l'ensemble de ces mesures, c'est une volonté du gouvernement et du MEDEF d'aligner tout le monde sur le régime général, sur un même système d'indemnité et de versement d'allocation. Or, il ne prend pas en compte la spécificité des métiers de chacun, à savoir que les intermittents sont par définition des salariés de l'emploi discontinu, c'est par nature de l'emploi discontinu, que les intérimaires aussi, et qu'on ne peut pas, faire basculer ces gens-là dans le régime général qui est censé protéger les salariés de qui sont sous contrat plus stable. Voilà. Alors il y a un comité de suivi qui a été créé depuis plus de 10 ans maintenant, suite à la crise de 2003, qui est composé d'élus, de parlementaires, d'experts, sociologues, économistes, et professionnels du spectacle et autres, qui ont élaboré depuis 10 ans des propositions concernant l'indemnisation chômage, qui sont moins coûteuses et plus justes, qui rétablissent une certaine équité dans tout ça. Ces propositions n'ont pas même été entendues. Alors, parmi ces propositions, il y en a une que je tiens à souligner. C'est le plafonnement des indemnisations. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple de l'intermittence. Le plafonnement actuel, même après la réforme, même après l'accord du 22 mars, il est à plus de 4500 euros de plafond par mois. Or, ce qu'on défend, c'est bien évidemment un plafonnement plus bas. Il y a très, très, très peu d'intermittents qui touchent plus de 4 000 euros par mois. C'est rarissime. Donc ce qu'on demande, c'est, pour faire des économies comme le demande le gouvernement, c'est de réduire ce plafond. Or ça, ça n'a pas été fait. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça fait partie des mesures importantes proposées par le comité de suivi. La lutte continue. Ce qu'on demande, c'est un dialogue, un vrai dialogue. Là, actuellement, on occupe l'Opéra. On invite bien évidemment tous les élus à venir nous rencontrer, à venir dialoguer, s'informer. On est complètement déterminés et le mouvement ne fait que commencer.
Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, c'est le collectif Unitaire 69, donc, qui lutte contre l'agrément du 22 mars 2014, qui concerne à la fois les intermittents, les intérimaires, les régimes précaires et tout ce qui s'ensuit. Et hier soir, nous nous sommes rassemblés en AG. Et du coup, lors de cet AG a été votée l'action de la réquisition de l'amphithéâtre de l'Opéra. On avait certaines demandes qui n'ont pas été entendues par l'amphithéâtre. Donc nous avons décidé de rester sur place pendant au moins 48 heures renouvelables. Ah, un mot d'ordre, c'est non à l'agrément. C'est non à l'agrément, et ce qui est très important pour chaque militant ici, mais aussi sur toutes les régions où ça milite, c'est que on se bat, mais on se bat pour tous. Donc c'est vraiment nos deux mots d'ordre.
Nous sommes à l'Opéra de Lyon, nous occupons suite à l'AG du dimanche 22 juin à 19h. Il a été voté une action d'occupation de l'Opéra, ce que nous avons fait. Nous venons de passer une nuit plus une matinée qui est déjà bien entamée. Donc voilà, c'est une action d'occupation. On a beaucoup discuté, un peu dormi, rediscuté encore. Voilà.
On est là parce qu'en fait, il y a eu une occupation de l'Opéra qui a été entamée hier soir par le collectif Unitaire 69. Et en fait, on a demandé une mise à disposition d'un lieu pour pouvoir se réunir, travailler, fédérer, mettre en place la lutte pour les semaines à venir. Et ça nous a été refusé. Du coup, on a voté en Assemblée Générale l'occupation de l'Opéra. Donc il y a 20 personnes qui sont restées dormir là-bas. Et on n'a pas le droit de... Nous, on ne peut pas rentrer. Et les actions dehors, c'est pour sensibiliser le public, pour que les gens s'arrêtent, pour qu'on leur parle, pour que les gens qui nous entourent comprennent que en fait, ce mouvement n'est pas qu'un mouvement qui va toucher les intermittents. La réforme qui va passer touchera tout le monde. C'est une réforme de l'assurance chômage et que ça va précariser les statuts de tous les travailleurs discontinus et de tous les travailleurs en CDD, tous les travailleurs en intérim. Et que c'est le début d'une grosse galère pour tout le monde si cette réforme passe réellement.
Brume 90.7, une émission spéciale aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir le collectif Unitaire 69 avec messieurs Hervé Charton et Joris Morel qui sont là aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ce collectif et du combat voilà, qui se tient depuis quelques mois, quelques semaines.
Bonjour à tous.
Bonjour. Alors, bonjour messieurs. D'abord, je vais vous laisser présenter le collectif à nos auditeurs de Brume.
Ok, alors le collectif Unitaire 69, c'est un collectif qui s'est formé en février 2014, là, qui est très récent, parce que c'est vraiment un exemple parfait de ces mouvements spontanés, populaires, qui partent de la base et qui ne sont pas chapeautés par des syndicats, par des organisations, des partis politiques. Il s'est créé en fait suite à un rassemblement qui s'était formé devant le MEDEF, devant le siège du MEDEF à Lyon, pendant lequel, qui était une réaction spontanée à cette proposition indécente du MEDEF de supprimer purement et simplement le régime de l'intermittence. À partir de là, en fait, nous avons toutes ces gens qui s'étaient rassemblés, nous les avons réunis ensemble, on a fait en sorte qu'ils puissent se recontacter, et ça a formé le collectif unitaire qui s'est organisé et qui a rejoint en fait des initiatives qui sont de plus longue durée, c'est-à-dire qui a rejoint Spectacle en Lutte, qui était l'association qui est depuis 2003, en 2003 en tout cas, luttait contre déjà la réforme de l'intermittence à ce moment-là, et puis qui a rejoint aussi tous les CIP qui sont les coordinations d'intérimaires intermittents et précaires de toute la France.
Et alors aujourd'hui, il y a combien de personnes à peu près dans le collectif Unitaire 69 ?
Aujourd'hui, on est en rassemblement, on est à peu près 180 personnes. Et on a un Facebook aussi, et là on est monté à
1600 ce matin.
On rejoint le collectif.
Alors on va revenir un petit peu chronologiquement sur ce qui s'est passé justement depuis la création de ce collectif. Alors peut-être à la fois au niveau politique, pour ceux qui n'auraient pas suivi les déclarations du MEDEF et du gouvernement. Et vous, comment vous avez réagi justement? Vous pouvez nous faire comme ça un petit déroulé, un petit peu des événements de ces derniers mois rapidement?
Un petit chronologique c'est un peu compliqué. Disons qu'il y a eu, une étape qui a été
d'organisation interne.
Voilà, c'est ça. De voir un peu aussi de décryptage énormément, parce qu'il y a énormément de travail qu'on fait. On n'est pas dans l'opposition pure et simple. On a énormément de travail qui est fait en coulisses pour essayer de comprendre les textes, de voir quelles sont les implications concrètes pour chaque catégorie de salariés. Parce qu'effectivement, si ça s'est au début créé autour de l'intermittence, c'est vraiment un mouvement qui concerne et qui rassemble aussi tous les travailleurs précaires, hein, finalement, ceux qui sont en CDD, ceux qui sont en intérim, ceux qui sont au chômage de longue durée aussi. Enfin voilà, tout le monde est concerné par notre lutte quotidienne. Et alors après les différentes étapes, je ne sais pas si je risque un peu un souvenir de comment ça a pu se...
Parce que là, ce que je peux dire, c'est que donc il y a organisation interne où on essaye de, oui, comme disait Hervé, de bien comprendre le problème qu'on attaque, et nous ensuite on vise avant tout à sensibiliser autour de nous, de pouvoir parler avec les gens, de discuter avec les gens dans la rue, et de voir déjà leur point de vue et de leur expliquer quels sont les accords qui essayent d'être passés avec cet agrément.
Et alors justement, quels sont ces accords en fait? C'est ça aussi le sens de ma question un petit peu. C'est qu'est-ce que vous risquez? Enfin, qu'est-ce qu'on risque en fait en tant que travailleur précaire, en tant qu'intermittent? Parce qu'on sait très bien, on le disait tout à l'heure hors antenne, que voilà, le MEDEF dit qu'il va supprimer l'intermittence, mais que c'est pas ça, vraiment. Mmh. C'est plutôt pour faire encore couper un petit peu les vivres et un petit peu taper sur les mêmes.
Pour précariser un peu plus précariser les plus précaires. Oui. Par exemple, il y a l'article... dans l'annexe 4 pour les intérimaires, il y a une baisse de 50 à 300 euros dans l'indemnisation de 70% d'entre eux, de 60% pardon, des intérimaires.
Et oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que l'accord fait porter les économies qui doivent être faites, enfin en tout cas ce qui sont une espèce de prétexte comme ça pour en fait précariser davantage encore les travailleurs. Et qu'ils acceptent des emplois de moins en moins bien protégés par le droit du travail, de moins en moins bien rémunérés.
Et que ça devienne un peu une course aux petits emplois, comme ça, et qu'au bout d'un moment, il pourrait même y avoir des contrats, par exemple, de 3 heures. Juste, on est embauché, mais juste pour 3 heures, et puis après, tu te retrouves sans boulot, et il faut aller refaire des recherches, et tout le temps en train de courir dans tous les sens après des petits emplois.
Bah, très concrètement, par exemple, il y a quelque chose qui est proposé dans cet accord qui a été présenté par les syndicats de salariés comme une grande avancée pour tous les chômeurs, pour tous les salariés. Ce sont les droits rechargeables. Et on en parle beaucoup. Et les droits rechargeables, très concrètement, nous, dans l'intermittence, on connaît ça très bien depuis 2003, Parce que en fait, c'est exactement ce qui se passe dans l'intermittence, c'est-à-dire c'est la course continuelle au cachet, c'est la course continuelle à des petits emplois comme ça, voilà, ce qui pousse tout le monde à chercher à faire de la figure à droite à gauche, chercher à faire des petites pubs, enfin des trucs comme ça qui n'apportent absolument aucune satisfaction, bon certes artistique, mais aussi même en termes de juste réalisation personnelle, voilà, ce que après tout tout le monde cherche.
Enfin, je voyais le stress permanent aussi, quoi.
Le stress permanent. Là,
que tu peux jamais te poser 5 minutes, t'es toujours obligé de chercher quelque chose, quoi.
Bah, t'es malléable, à merci, voilà, et c'est effectivement ce que cherche le MEDEF.
Oui, et puis ça accentue l'industrialisation de la culture qui devient avant tout une espèce de machine économique et qui n'est plus. La fonction n'est plus d'ouvrir vraiment les esprits, de que les gens puissent même aller au théâtre, par exemple, pour ressentir des émotions ou voir quelque chose de poétique et qui éveille.
Mais du coup, si on élargit ce que tu dis aux autres domaines, parce que vraiment, étant donné que l'accord touche le domaine de l'intermittence, mais aussi les intérimaires, enfin, tous les travailleurs précaires, quand on sait qu'aujourd'hui 86% des embauches se font en CDD, ça veut dire que tout le monde, à un moment donné, va avoir des périodes de chômage, va alterner des périodes d'emploi et de chômage. Si on élargit ça, c'est vraiment le fait, dans la culture, cela revient à réduire la qualité de ce qu'on fait en tant qu'artiste, d'être tout le temps dans cette course perpétuelle au cachet, course perpétuelle au contrat. Et dans le reste des emplois, cela revient aussi à réduire la qualité de ce qui est fait. Dans le bâtiment, cela revient à augmenter la productivité, cela revient à faire des bâtiments qui sont moins solides, plus dangereux, et des travailleurs qui vont être encore une fois plus sujets à, par le stress, par les conditions de travail, plus sujets à des accidents de travail, à des arrêts maladie, et du coup à des coûts supplémentaires. Enfin, quand on considère que
c'est ça, c'est que c'est souvent des petits calculs d'épicier en plus que le gouvernement met des fonds. Et alors qu'on sait très bien que finalement le coût engendré par tout ça sera bien plus grand pour la Sécu, pour tout un tas de choses, quoi.
Ouais, exactement. Exactement, c'est des calculs d'épicier, mais c'est des calculs d'épicier, pas tellement, parce que finalement...
Oui, il y a une volonté derrière de...
Déjà, il y a des épiciers très bien. Mais non, puis en plus, voilà, c'est qu'il y a une volonté idéologique qui est de donner toujours plus aux ceux qui ont plus, et puis de finalement avoir, en fait, de réaliser une rupture de classe toujours plus marquée entre un prolétariat qui va leur être complètement acquis. Et
puis il y a une stigmatisation quand même, on a un petit peu cette impression aussi quand même, que ça soit des intermittents, des cheminots, enfin il y a vraiment aussi cette idée, mais moi je trouve qu'on a vu vraiment un marqueur, même si ça a tout le temps existé avec justement quand Raffarin était premier ministre, qui a commencé à vraiment faire ça, ce truc de monter les gens les uns contre les autres, de dire sans arrêt les privilégiés, les machins, les cheminots aussi, les intermittents ça, il y a tout ce truc là, parce que c'est vrai qu'on parle tout à l'heure de ce problème, et on voit quand même que c'est une cause assez juste finalement, qui est défendue, qui va toucher en tout cas beaucoup de gens dans la population française. Mais on a quand même cette impression que l'opinion publique a quand même un regard assez dur là-dessus, quoi. Et comment on peut expliquer ça aussi, justement, ce truc-là ?
Avant tout, les médias dominants, avec les informations qu'ils passent, qui font circuler une image... j'ai l'impression, là, les cheminots, c'est un peu les brutes... casseurs qui déboule,
preneur d'otages,
voilà,
qui empêche les gentils bacheliers d'aller passer leur bac,
voilà, qui en plus, oui, là on accentue sur les ceux qui passent leur bac, voilà, c'est les pauvres petites victimes de la SNCF, enfin de,
ouais,
de ça nous paraît, ça nous permet de rappeler quand même historiquement que si les gens vont partir en vacances dans quelques semaines, c'est en grande partie grâce aux cheminots en 1936 qui se sont mis en grève. Ils étaient quasiment les premiers à lutter pour les congés payés.
Oui. Bref, parenthèse. Merci pour ce point.
Et de l'autre côté, il y a les intermittents. J'en profite pour dire qu'on dit les intermittents, et moi-même je le dis, c'est une erreur. Intermittent, ce n'est pas un métier, c'est un régime. C'est, on travaille par intermittence. Donc déjà là-dessus, on peut faire une rectification. On est comédien, metteur en scène, dramaturge, technicien, régisseur. Mais nous ne sommes pas des intermittents.
Et encore, quand tu dis on travaille par intermittence, c'est plus qu'on est payé par intermittence.
Oui.
Et en réalité, la plupart d'entre nous, on travaille en permanence, en fait. Hein. Vraiment. Mais voilà, je te laisse finir.
Et donc, les intermittents du spectacle sont les gueulards qui sont toujours en train de courir après des privilèges qui ne sont pas des privilèges, qui sont juste... Une adaptation à un métier qui est en intermittence et qui, du coup, a besoin d'une assurance chômage spécifique.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, ce qu'on entend dire, donc c'est un statut de... Enfin, c'est un régime de privilégiés. Bon, non, certes, voilà. Il faut vraiment faire la différence, c'est adapter à des pratiques d'emploi discontinues. Là où, finalement... commence à devenir délicat pour nous parce que en fait les pratiques d'emploi discontinu commencent à devenir la norme en fait, elles commencent à devenir très fréquentes et ce qu'il faut arriver à bien faire comprendre aux gens c'est que du coup l'intermittence du spectacle l'intermittence en tant que pratique d'emploi cesse d'être une spécificité du spectacle aujourd'hui et qu'elle devrait finalement être étendue en tant que protection sociale qui est tout de même meilleure que ce qui existe dans le régime général par rapport à l'emploi discontinu. Le régime général, en fait, il est adapté à des emplois continus. Il est adapté à des CDD qui durent un an, deux ans, trois ans, quatre ans, enfin voilà. Ou alors des CDI, voilà. Ça, c'est pour le régime général. Mais pour tout ce qui est de durée plus courte, ça, ce n'est pas adapté parce que le mode de calcul ne convient pas, parce qu'il faut compter les heures plutôt que de compter les jours. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, l'intermittence fait modèle. L'intermittence, c'est un modèle qui peut être, s'il est amélioré, parce qu'effectivement, ce que nous subissons depuis 2003, depuis la dernière grande réforme de ce régime d'assurance chômage, il n'est pas du tout adapté, en fait. Ça a précarisé énormément les gens, ça a fait payer à ceux qui étaient dans des situations compliquées les salaires les plus hauts revenus. Donc ça ne va pas du tout. Mais, donc il faut revenir là-dessus. Mais en soi, le principe de cette assurance chômage qui est le régime de l'intermittence pourrait tout à fait être étendu à d'autres branches salariales et constituer un modèle pour sécuriser l'emploi dans un contexte de grande flexibilité. Voilà, c'est-à-dire que là, on nous vend le fait qu'il faut une flexi-sécurité. Ce que le MEDEF tente d'imposer, c'est une flexi-précarité. C'est-à-dire, vous avez la flexibilité de l'emploi, vous passez d'un emploi à un autre, mais alors aucune sécurité derrière en termes de revenus. Et quand on dit aucune sécurité en termes de revenus, on sait très bien que ça veut dire pas de sécurité en termes de logement, pas de sécurité en termes de protection sociale, même pour la sécurité sociale, pour les choses comme ça. Enfin, ça démantèle l'ensemble hein, de l'édifice social français. Donc voilà, c'est un modèle possible, l'intermittence, pour énormément d'emplois aujourd'hui.
Et alors vous, en tant que collectif unitaire, du coup, vous faites des propositions. L'idée, c'est de rester sur le même modèle économique ou c'est d'essayer de proposer des choses? Parce que voilà, sans vouloir faire l'avocat du diable et tout ça, il y a beaucoup de gens qui jouent là-dessus à tort et à travers. Mais c'est vrai qu'on sait aussi qu'il y a des abus. Il y a aussi des gens... voilà, on va pas faire non plus les mijaurés. Moi, j'en ai connu personnellement des gens qui se gavaient de pognon en bossant très peu, machin, en étant permittant, nanana. Des gens qui ont jamais fait de spectacle ni de quelque chose en lien avec la création et qui sont quand même intermittents. Enfin voilà, il y a aussi des choses comme ça. Et justement, on sait que le MEDEF, l'opinion publique, les machins, se gavent là-dessus. Enfin, vont forcément du coup agiter le haro là-dessus, quoi. Alors, comment, en tant que collectif, comment vous positionnez par rapport à ça?
Bon, déjà, si je veux dire un truc, quelque chose, hein, on stigmatise les abus comme ça qui sont réalisés par une poignée de gens dans ces métiers-là. Faut quels sont les abus qui coûtent le plus cher? Est-ce que ce sont eux ou est-ce que ce sont les abus de tous ces gens-là qui dirigent le MEDEF aussi en particulier? Il faut savoir que celui qui est actuellement à l'origine du rapport de la Cour des comptes qui stigmatise l'intermittence là dernièrement, il est dans le même temps suspecté d'avoir versé énormément de pots de vin. Enfin, je veux dire, il y a des actions en justice contre lui. Tous les gens qui... La personne qui a elle-même créé la réforme de 2003 au MEDEF, qu'il a fait passer, est aujourd'hui emprisonné pour détournement de fonds. Enfin,
non, mais on sait, comme les gens qui stigmatisent ceux qui fraudent la CAF, hein, machin. On sait que voilà, les intermittents qui fraudent ou les gens qui fraudent la CAF, c'est rien par rapport à ce que les banquiers, si ça. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord.
Voilà, c'est tout petit. Hein.
C'est tout petit par rapport. Mais il n'empêche que, justement, c'est quelque chose sur lequel vont s'appuyer comme ça le MEDEF, le gouvernement. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire alors pour empêcher aussi des... Parce qu'il y a les gens qui fraudent, mais il y a aussi les grandes entreprises de production, ouais. Les chaînes aussi télé, qui utilisent ce système-là pour avoir moins de frais. Enfin, voilà, le sens de ma question, c'est plutôt de savoir, en tant que collectif, qu'est-ce que vous proposez du coup pour essayer d'un petit peu casser aussi justement cette image-là, quoi.
Alors, d'un point de vue des propositions, on a tout un tas de propositions qui ont été faites. C'est pas le collectif Unitaire 69 qui est, comme vous l'avez compris, assez jeune et puis qui. Mais par contre, les CIP, les coordinations intérimaires et précaires de France, sont organisées depuis beaucoup plus longtemps et ont créé un comité de suivi qui a fait des propositions alternatives pour déjà faire en sorte que les dispositions générales sur l'assurance chômage indemnisent mieux les gens. Et sécurise les plus précaires et du coup fasse en sorte que ceux qui ont déjà des bons revenus n'aient pas forcément d'assurance chômage derrière pour encore appuyer leurs revenus supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment une chose, c'est-à-dire que déjà ceux qui ont, là tu parlais des gens qui se gavent, etc., qui ont énormément de salaire, enfin voilà, grâce à ce régime-là, s'il y avait une proposition qu'on a faite qui était de plafonner le cumul indemnité-salaire à un plafond qui est bien inférieur à ce qui est aujourd'hui proposé dans le nouvel accord sur l'assurance chômage, voilà, cette proposition-là permettrait de faire énormément d'économies et serait beaucoup plus juste parce qu'elle redistribuerait depuis les hauts salaires jusque vers les bas salaires, vers les gens qui sont en précarité. Après, au niveau de la pratique de la permittence qui est réelle, il y a des propositions qui n'ont pas été reprises pour le moment par les collectifs unitaires, par les coordinations d'intérimaires et précaires, qui ont été faites par Pierre-Michel Menger, qui est un professeur au Collège de France, et qui vise à adapter dans un sens... que les cotisations des entreprises, des employeurs à l'assurance chômage se calquent par rapport à ce qui se fait maintenant sur les accidents du travail. Les accidents de travail, c'est-à-dire si on a une espèce de coefficient risque pour les entreprises, si on a beaucoup de risques de créer des accidents du travail, on cotise plus. Si on a moins de risques, on cotise moins. Donc voilà, ils voulaient faire un peu la même chose, c'est-à-dire que faire un truc où les entreprises qui créent énormément, qui emploient énormément de CDD, de CDDU, c'est-à-dire les contrats à durée déterminée d'usage, qui sont les contrats de l'intermittence, et qui génèrent ainsi énormément d'indemnités au chômage derrière, paieraient davantage de cotisations pour le régime. Ça, c'est une chose, par exemple. Mais après, voilà, ce qu'il faut, en fait, surtout, c'est que pour le moment, tous les employeurs sont tranquilles. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont jamais contrôlés, etc. Donc il faut certes faire un peu de ménage là-dessus. Il faut par contre faire un peu attention à ce que cela ne tue pas également aussi tout ce qui est la création, parce que mine de rien, énormément de choses se font en bénévole, dans les petites compagnies, etc. Ce qu'il faut, en fait, ce qu'il faudrait surtout, c'est soutenir la création. Toujours pareil, donner, en fait, faire en sorte
que on donne
plus bas.
qu'on est aussi souvent dans des discours à petit format sur des petites choses. Enfin, en tout cas, les politiques, les médias et le MEDEF essayent toujours de ramener ça à des petits trucs et tout. Alors, ce qu'il faudrait, c'est des vraies questions de société, en fait, sur la place la culture, sur la place de la santé, des travailleurs, etc. Quoi.
Et puis sur,
c'est
oui,
aussi
sur
le souci, quoi.
Sur, est-ce qu'on veut une société plus égalitaire ou est-ce qu'on veut voilà, une société qui est entièrement dans les mains de quelques-uns.
Oui, ensuite, oui, ça rejoint des problèmes un peu idéologiques, quoi, de savoir si c'est les riches s'enrichissent de plus en plus et les pauvres s'effondrent de plus en plus, ou si ceux qui ont les plus grandes fortunes peuvent aider les plus démunis. C'est aussi simple que ça.
Alors, pour revenir sur le collectif Unitaire 69, à chaud comme ça, donc on est le 25 juin, qu'est-ce qui se passe un petit peu cette semaine? Quelles sont les actions prévues un petit peu? Si des auditeurs ont envie de venir vous soutenir
Déjà, il y a un tic-tac qui est en place. C'est-à-dire qu'on est le 25 et le 26 ou le 27, l'accord risque d'être signé. Voilà, ça c'était pour dire un peu l'urgence.
Donc là, on est dans une urgence qui est d'autant plus incompréhensible que ça fait des mois, des semaines, des mois qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir.
Des années aussi.
Des années. Voilà, et
une fois que c'est signé, là, il n'y a plus de... C'est le point de non-retour, qu'est-ce que...
Alors c'est ça, la chose très drôle, c'est que Emmanuel Valls est resté sur sa position que l'accord sera donc signé le 26 ou le 27 juin. Mais il dit qu'ensuite, suite à cette signature, une discussion... sera envisageable. Donc, il y a quelque chose d'assez incohérent parce que, bon, on valide cet accord, mais on peut le rediscuter après. Donc là, il y a quelque chose d'assez... qu'on est énormément à ne pas comprendre et qu'on sent on sait l'embrouille politique qui est, bon, bah voilà, il y a le mois de juillet, il y a le mois d'août qui va passer gentiment, et puis... Le mouvement, ils attendent que le mouvement se réduise, que les gens s'éparpillent et que ensuite on arrive à la rentrée et que les choses soient pliées.
Et encore une fois, juste pour compléter, les propositions de Manuel Valls, elles concernent encore une fois que l'intermittence, que ceux qui gueulent le plus fort en fait, dans un sens, parce qu'effectivement on a du mal à faire en sorte que l'ensemble des travailleurs intérimaires nous rejoignent, parce qu'ils sont dans l'ensemble éparpillés, quoi, alors que nous on a un accès relativement facile aux médias. Du coup, ils ne s'attaquent pas au fond du problème, et le fond du problème finalement il sera passé au 1er juillet.
Et pour revenir aux actions, par exemple, cet après-midi à 17h, nous faisons une action Place de la République. Une action qui va mobiliser énormément de personnes. Ensuite, on a une AG tous les deux jours, désormais.
Si vous voulez venir à l'action de cet après-midi, il faut venir, je ne sais pas si on sera diffusé avant, mais il faut venir avec un t-shirt noir avec une croix blanche dessus qui est un peu notre signe actuel.
Qui est le signe qu'on voit pas mal, du coup, à droite à gauche.
Qui représente le travailleur rayé.
C'est ça.
Et du coup, sur la question un petit peu des festivals... est-ce que vous pensez que voilà, ça peut changer les choses si effectivement Avignon et d'autres gros festivals de l'été sont en grève?
Alors, juste finir par rapport à ce que Joris disait, c'est qu'on a une AG demain, hein, donc à 15h à l'Odéon des Nuits de Fourvière, dont le théâtre gallo-romain. Et donc par rapport au festival, je sais pas si tu veux dire un truc.
Oui, par rapport aux rumeurs sur les grèves. Déjà, Olivier Py dernièrement a dit qu'il ne ferait pas grève, lui, qu'il ne demanderait pas à ses équipes d'annuler le festival IN. Mais en contrepartie, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer par rapport à cet agrément dans les festivals. Au contraire, Je pense que si les gens viennent travailler, c'est aussi pour parce qu'il faut travailler, il faut continuer à vivre, mais aussi pour pouvoir sensibiliser, pouvoir faire des actions durant les festivals et se réunir. Et aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus important de ne pas annuler les festivals et d'organiser en fonction.
Et ça, c'est discuté entre vous, par exemple. Il y a des gens qui sont pour, contre. Comment ça se passe à ce niveau-là Enfin, je parle pour vous, pour le collectif unitaire, mais pour
surtout
de manière générale, c'est quand même des grosses questions, quoi. Souvent, qui divisent un petit peu les gens en lutte, quand même.
C'est vrai, surtout que cette question-là, finalement, elle est pour le moment dans les mains des gens qui sont à Avignon. Sont déjà là-bas.
Moi, je parle d'Avignon, mais tous les autres. Événements, parce qu'il va y avoir quand même pas mal d'autres gros festivals dans l'été.
Oui, les Nuits de Fourvière continuent aussi jusqu'à la fin du mois.
Il y a Jazz à Vienne aussi qui commence
bientôt.
Aujourd'hui, aujourd'hui ou demain
Ce week-end, probablement.
Ouais, ce week-end,
qui est dans les bacs. Quoi.
Ouais, voilà. Non, mais alors, moi, je suis d'accord avec Joris. Effectivement, on en discute de ça. C'est-à-dire que là, on a tous conscience qu'il faut déplacer un peu le débat, le faire sortir un petit peu des lieux de culture qui est fait. Je veux dire, si c'est que les lieux de culture, des festivals, etc., qui font grève, effectivement, l'amalgame qu'il fait dans la presse, comme quoi notre contestation concerne que le régime de l'intermittence, est relativement immédiat, quoi. C'est-à-dire, voilà. Donc nos actions, en fait, probablement, enfin, à titre personnel, c'est vrai qu'on en discute encore beaucoup, d'autres ne sont pas forcément d'accord. À titre personnel, je crois qu'il serait bien d'utiliser ces tribunes que sont les festivals, ne pas les annuler, mais utiliser vraiment ces tribunes que sont les festivals pour continuer à sensibiliser l'opinion publique au maximum, faire des actions qui sont non-violentes, faire des actions qui seront médiatiques, etc., qui vont continuer à montrer qu'on continue à lutter contre cet accord-là, et puis surtout pour, parce que l'accord, il sera passé, mais surtout pour de meilleurs droits sociaux, pour une meilleure protection sociale pour l'ensemble des travailleurs. Et puis, à côté de ça, organiser des résistances sur d'autres points que juste les festivals et les lieux culturels.
Il y a des mobilisations qui se font autour des boîtes intérim, de Pôle emploi, où on organise... des groupes pour aller justement tracter devant ces structures et sensibiliser les personnes et les inviter fortement à venir à nos AG pour déjà s'informer et ensuite rejoindre des commissions s'ils le souhaitent.
Et vous pensez que ça peut justement fédérer un vrai mouvement social derrière, enfin comme c'est un petit peu en train de se passer, mais vous pensez vraiment que du coup, on est depuis tout à l'heure dans une discussion où forcément les choses sont pas gaies et tout, mais si on veut mettre un petit point d'espoir, etc., une petite note comme ça de révolte, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment amener aussi carrément une réflexion d'ensemble et des actions qui font peut-être... inverser ce rouleau compresseur MEDEF, gouvernement et compagnie
et
sur la tronche des travailleurs, quoi.
Oui, les gens, clairement, aujourd'hui, ne croient plus au gouvernement. Et on en ras-le-bol. Les travailleurs en ont marre, en général. Et... Ce qui montre bien ça, c'est le passage du Front National aux dernières élections européennes
et l'abstention aussi.
Et l'abstention très très forte. Et du coup, les gens ont envie de changement et bon, ils le croient. Enfin, ils font une provocation avec ce vote du Front National. Enfin, il y a une bonne partie.
Et vous, votre mouvement, vous, le collectif Unitaire 69 et tout ce qu'il y a depuis quelques semaines qui se monte et tout, est-ce que ça, vous pensez que c'est vraiment, ça peut être une source justement de remobilisation sur un objectif précis en fait de la défense des travailleurs, quoi.
Mais ça peut complètement. Enfin, après ça dépendra tout de comment les gens nous suivront, parce que effectivement si là on est dans une pente ascendante, c'est sûr.
Voilà, qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai dynamisme, il y a quand même quelque chose qui est en train de se créer aussi, quoi.
Il y a de plus en plus de monde, les gens se mobilisent de plus en plus, les gens prêtent une attention, prêtent une oreille attentive à ce que nous disons. Donc voilà, la pente est ascendante, mais c'est presque normal, j'ai envie de dire, pour un mouvement d'être dans ses débuts, sur une pente ascendante. Il faut voir comment est-ce qu'on va réussir à continuer à travers l'été, et puis quand on continuer aussi à recruter, finalement, à convaincre les gens de nous rejoindre, de nous soutenir en dehors du seul monde de la culture, parce que c'est quand même beaucoup lui encore qui est présent, même si pas que, hein, certes, mais voilà, c'est quand même encore beaucoup lui, en tout cas à Lyon. Mais on sait qu'on voilà, on crée des convergences, on essaie de créer des convergences. Par exemple, la Confédération paysanne, on crée des convergences avec eux. On a fait des manifestations aussi avec les cheminots. On a fait des manifestations, peut-être que le monde de la recherche, là, qui aujourd'hui aussi lutte contre un projet de réorganisation de l'université, peut se joindre à nous. Il faut qu'on les contacte. Je sais qu'à Paris, ils sont en lien avec les postiers du 92 qui sont en grève depuis plusieurs mois. Voilà, donc il y a vraiment une volonté de convergence des luttes, parce que finalement, ce sur quoi nous nous battons, c'est vraiment aussi un manque total de dialogue social, un manque total d'écoute de la part des dirigeants.
Et puis, même un déni de la démocratie, tout simplement.
Donc voilà, nos luttes sont cousines, quoi, en tout cas.
Mais ouais. ce qui rendra vraiment le mouvement plus fort, c'est avant tout que chacun personnellement s'informe, prenne le maximum d'informations possibles et fasse une analyse lui-même de la chose, et qu'on ne suive pas tous comme des moutons le mouvement qui est en train de se faire. Et, ouais. On est une vitrine, on est un lieu où on donne des informations et on discute les propositions. On n'impose pas les choses, c'est avant tout un lieu de dialogue et voilà, d'avance solidaire.
Ok, bah écoutez, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose un petit peu pour cette émission spéciale ?
Bah non, juste déjà vous remercier.
Je pense qu'on se recroisera très bientôt. À mon avis, on vous réinvitera soit dans l'été, soit au plus tard à la rentrée pour voir un petit peu comment tout ça a évolué. Du coup, on va donner quand même pour les auditeurs intéressés un petit peu les pages web, tout ça du collectif, ouais. Les contacts, quoi.
Eh bien, il y a le mail, le collectif unitaire69@gmail.com.
Ouais, tout attaché, collectif unitaire69.
Voilà. Sinon, on a le Tumblr, collectif-unitaire-69.tumblr.com, et également le groupe Facebook Collectif Unitaire 69.
Voilà, Collectif Unitaire 69, de toute manière, vous allez nous trouver. Et après, il y a aussi tout ce qui est des textes, des vidéos et des choses comme ça qui sont disponibles sur cip-france.org. Il y en a aussi sur le site du collectif unitaire, mais voilà, sur cip-france.org, ça regroupe un petit peu tous les efforts de la coordination nationale. Et là, vous pouvez avoir des éléments, enfin un peu partout, vous avez des éléments pour vous informer et vous faire votre propre opinion.
Et si vous voulez une lisibilité un peu plus grande des explications de toutes ces choses-là, tapez Samuel Churin sur internet, et là vous aurez déjà une bonne partie d'explication de tout ça.
Merci Sam.
Merci Samuel.
Eh ben, je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venu un petit peu nous parler du collectif Unitaire 69 et de la lutte en général pour les travailleurs. Et puis voilà, on espère que ça va tourner dans le bon sens tout ça, quoi. À très bientôt.
On y travaille.
Merci.